Je viens ici avec ma culture québécoise, mais je connais la culture suisse. Et je sais que vous êtes très... comment on appelle ça? Donc, l'esprit horloger. Hein? Donc, c'est très présent chez vous. Par contre, j'ai un message à vous livrer et je vais vous le livrer. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai pour le livrer, mais je vais le livrer jusqu'au bout. Amen! Mais soyez pas craintifs, c'est moins de 2 heures, ça, quand même. Alors, cette année, en début, vous savez, à chaque année, je demande à Dieu un ordre de mission pour l'année qui débute. Et cette année, j'ai reçu de la part de Dieu de bénir. Il dit, partout où tu vas, je veux que tu bénisses les gens, et pas seulement dans le ministère, partout. Et c'est quoi bénir? Bénir, c'est dire du bien. Et donc, je me discipline depuis le 1er janvier à interdire à ma langue de prononcer des malédictions, de dire du mal de qui que ce soit. Et je peux vous dire, c'est tout un boulot. D'ailleurs, vous lirez l'épître de Jacques sur la langue, et il va vous dire que c'est le feu de la géhenne, c'est un bien petit membre, mais qui se vante de grandes choses, et par lui, on peut bénir ou maudire de la même langue, de la même bouche. Et donc, depuis le 1er janvier, je me discipline à bénir, à dire du bien. Et j'aimerais vous bénir ce soir, et j'ai trouvé dans la Bible une magnifique bénédiction, qui est dans le livre des Nombres, au chapitre 6, et à compter du verset 22, il est écrit, « L'Éternel parla à Michel et dit, parle aux Genevois et à ceux... » Oui, c'est ça, Genevois. « Et à leurs fils, et voici, ainsi vous bénirez les enfants de Dieu, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne son shalom, qu'il te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Soyez bénis. Amen. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Actes. Le livre des Actes, au chapitre 13. Claire, tu ne savais pas ce que j'apporterais comme message ce soir, hein? Mais merci pour la première vidéo par rapport à cette niaque que la jeune fille avait, parce qu'elle était montée sur ce pieu avec la décision de gagner. Et rien ne l'empêchait d'atteindre son objectif. Et là, je ne répéterai pas ce qu'elle a dit, qu'elle soit fille ou garçon, l'important, c'était la détermination parce qu'elle savait qu'elle était capable de gagner. Mais on va aller plus loin un peu. Acte 13, verset 28, « Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. » Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui ne revient jamais à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté. Éternel Dieu, merci pour la présence de ton Saint-Esprit dans ce lieu, qu'elle soit sur ton serviteur et sur ta parole, afin qu'elle produise dans nos cœurs ce pour quoi tu l'as envoyé. C'est ma prière dans le nom de Jésus-Christ, et ceux qui sont prêts à recevoir la parole de Dieu dans leur cœur disent Amen. Amen. Vous savez, à tous les ans, nous allons en Israël, et certaines personnes qui sont ici ce soir sont déjà venues avec nous. Malheureusement pour vous, on ne peut pas vous inviter pour cette année. Le voyage est complet de fin avril, mais pour 2019, si vous voulez vous joindre à nous. Et dans le voyage en Israël, même si on ajoute des nouveautés, à chaque année, il y a des incontournables. Tu ne peux pas aller avec un groupe de chrétiens en Israël sans, exemple, aller au Mont des Oliviers, sans aller au Mont des Béatitudes, naviguer sur la mer de Galilée, mais aussi d'aller à Golgotha et le Jardin du Tombeau. Et quelques années en arrière, alors qu'on est à Golgotha, habituellement, je demande toujours au Seigneur quel texte apporter, mais il n'y a pas 200 textes par rapport à l'événement qui a eu lieu à Golgotha au sujet de la crucifixion. Et cette année-là, j'ai reçu Acte 13. Acte 13 où il y a eu un bidon de procès, ou un procès bidon, je ne sais pas comment vous le dites ici, etc. Et Christ a été faussement accusé, condamné, a été mis à mort sur le bois. Et après, comme il est écrit, il a été descendu de la croix et mis au tombeau. Et là, soudainement, j'ai été saisi par, non pas tellement l'œuvre de la croix, quoique l'œuvre de la croix ne peut pas nous laisser indifférents, et tu l'as très bien partagé au moment de la Sainte-Cène, merci. Mais là, c'était plutôt, je me suis mis soudainement à mettre dans la peau des apôtres. Les apôtres qui, un jour, avaient eu la révélation que Jésus-Christ était le Messie, l'envoyé de Dieu pour les libérer. Et ces apôtres qui avaient tout quitté pour le suivre, convaincus qu'il était le Messie, vous vous rappelez, lorsque Jésus est à Césarée de Philippe, à Bagnas, et il demande à ses disciples, « Mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et l'apôtre Pierre, la révélation du Saint-Esprit, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dira, « Heureux Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation. » Pierre avait eu la révélation que Jésus était le Messie. Et pourtant, ce même Pierre, devant une petite servante dans la cour, reniera connaître son Sauveur. Et là, j'imagine qu'eux qui avaient tout quitté pour le suivre, convaincus, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu calmer les tempêtes, ils l'ont vu marcher sur l'eau, ressusciter des morts, nourrir des multitudes. Ils étaient convaincus qu'ils étaient pour claquer des doigts et qu'une légion d'anges viendrait à son secours. Pierre a déjà voulu même empêcher Jésus d'aller jusqu'à la croix. Et Jésus lui dira, « Arrière de moi, Satan, tu t'opposes à l'œuvre de Dieu. » Et là, ces apôtres qui avaient tout quitté, qui ont fui, imaginez-vous leur détresse, leur découragement, parce que leur famille, du temps de la gloire de Jésus, j'imagine les apôtres, tout fiers d'être ceux qui avaient été choisis par Jésus, et j'imagine de dire à leurs copains, si tu veux un rendez-vous avec le maître, je peux t'organiser ça, je suis un des 12, etc. Mais quand ils ont arrêté Jésus... Comme les coquerelles, ils sont partis partout et ils sont sauvés. Et là, celui pour lequel ils avaient tout quitté est là, pendu au bois, descendu de la croix et mis au tombeau. Mais trois mots, quatre mots, mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Mais Dieu. Alors qu'il pensait que tout était fini, mais Dieu. Et pourtant, Jésus les avait enseignés sur ce qui était pour leur arrivée. Lui arrivé, pardon, qui serait arrêté, qui serait condamné, qui serait mis à mort, mais que le troisième jour, son Père le ressusciterait. C'est des drôles de moineaux quand même, ces apôtres-là. Hein? Si nous, on avait été à leur place, on aurait tout compris, puis on aurait su que la croix, ce n'était pas une défaite, c'était une victoire, n'est-ce pas? Eh bien non, pas eux, les pauvres. Ils n'avaient pas compris ce que Jésus leur avait dit. Il fallait qu'il meure. Mais Dieu l'a ressuscité. Et là, j'ai été saisi par rapport à ces « mais Dieu ». Combien de fois on est dans des situations où on pense que tout est foutu, que ça y est, on a beau avoir tout cru, tout essayé, et là, l'évidence est que c'est fini. Eh bien, j'aimerais dire ce soir qu'avec Dieu, c'est jamais fini. Quelqu'un disait un jour, si le plan A ne marche pas, il reste 26 lettres à l'alphabet. Avec Dieu, tout devient possible. Et quand on est revenu en France, j'ai commencé avec Bible Online à fouiller un peu dans la Bible des situations où c'est foutu, mais Dieu. Et là, j'ai pensé au psaume 34, verset 20, qui dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre quelquefois. » Pardon? Ah, c'est pas quelquefois? Wow! Non, mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous entendez? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. La prochaine fois que le malheur va t'atteindre, parce que ça arrive, n'est-ce pas? Eh bien, tu diras, oui, mais Dieu est celui qui va m'en délivrer. Alléluia. Et là, ça a commencé à m'exciter encore plus. Et là, j'ai commencé à regarder d'autres histoires dans la Bible où il y a des situations, mais c'est foutu. Et là, je suis allé à 2 Chroniques 20. L'histoire de Josaphat. L'histoire de Josaphat qui se lève un matin et qui apprend que les Moabites et les Ammonites et toutes les bébites d'alentour se sont regroupés ensemble pour former une puissante armée et ils marchent contre eux pour les tuer. Pas pour faire la fête, pour les tuer. Et ça, c'est des vraies guerres, c'est des vrais combats. Et là, Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tout Juda dans la maison de l'Éternel et là, ils font quelque chose d'extraordinaire. Il rappelle à Dieu qui il est. Il rappelle à Dieu qui il est. N'es-tu pas Dieu, celui qui a créé les cieux? N'es-tu pas celui qui règne au-dessus de toutes choses? N'es-tu pas celui qui, d'une parole, peut changer les circonstances? Il rappelle à Dieu qui Dieu est et ce que Dieu a fait. D'après vous, est-ce qu'ils l'ont rappelé à Dieu parce que Dieu avait besoin qu'on le lui rappelle? Ou si c'était bien plus pour eux de se rappeler qui était leur Dieu? Dis pas à Dieu combien grand est ton malheur, mais dis à ton malheur combien grand est ton Dieu. Attendez une minute, dans mes notes, c'était marqué « Toute la foule dit Amen ». Non, mais peut-être à cause de l'accent, vous êtes en train de traduire. Mais trop souvent de fois, on dit à Dieu la grandeur de nos problèmes, de nos difficultés. Mais si au lieu de cela, tu dis à tes difficultés la grandeur de ton Dieu, alléluia, la foi vient de ce que j'entends. D'ailleurs, c'est le thème du prochain camp des plus que vainqueurs du 8 au 13 juillet prochain. C'est la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Quand j'entends la parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'histoire. Pourquoi ces choses ont été écrites? Pour se rappeler qui Dieu est et ce que Dieu a fait. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce que Dieu a fait pour Josaphat, il peut le faire pour moi. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour Josaphat? Lorsque Josaphat a publié un jeûne dans Juda, et ils ont commencé à rappeler à Dieu qui Dieu était, ce que Dieu avait fait et les promesses que Dieu leur avait faites. Parce que c'est important de se rappeler les promesses de Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Et là, alors qu'ils sont là en train de louer Dieu, ils n'ont pas commencé à louer encore, pardon, ça va arriver là. Ils ont commencé à rappeler à Dieu ses hauts faits, les promesses qu'il leur avait faites. Et là, soudainement, l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un dans l'Assemblée et là, il donne une parole et il leur dit, « Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, c'est moi-même l'Éternel Dieu qui combattrai pour vous. » Et là, Dieu donne, à travers celui qui a prophétisé dans l'Assemblée, une parole prophétique. Mais cette parole prophétique est venue suite à une position de Josaphat, la vérité. La vérité. Au verset 12 de 2 Chroniques 20, Josaphat décrit la situation. Il dit, « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons plus quoi faire. » On est au bout de nos ressources. Ils sont trop nombreux, trop puissamment armés pour qui nous sommes. On ne sait plus quoi faire, mais nos yeux sont fixés sur le problème. Non? Nos yeux sont fixés sur qui? Sur quoi? Mais nos yeux sont fixés sur toi, Éternel, parce que tu es Dieu. On se l'est rappelé tout à l'heure, que les exploits que tu avais déjà accomplis. Donc, maintenant qu'on s'est rappelé ça, nos yeux sont fixés non pas sur la situation, non pas sur les difficultés, mais sur toi, Éternel Dieu, qui a promis que tu nous en sortirais. Donne-nous ta stratégie. Et là, Dieu dit, t'appelles Myriam, Audrey puis Carla. Et tu leur dis de se mettre en première ligne avec le piano, avec les guitares, et c'est eux qui vont marcher devant l'armée. Je ne sais pas pour vous, quand on lit ça tranquille à l'abri ici, ça va, mais vous vous imaginez Myriam, Carla et Audrey qui sont en première ligne et qui disent, « Dis, Josaphat, es-tu sûr que Dieu a parlé? » Parce que c'est pas eux. Eux, ils nous attendent pas avec des lyres, des luttes puis des tambourins. Ils nous attendent avec des épées, des javelots. Ils veulent nous tuer! « Es-tu sûr, Josaphat, que Dieu a dit? » Et ils ont cru. Ils ont cru à la parole que Dieu avait donnée. Ils ont cru à la parole que Dieu avait donnée. Et la Bible nous dit, ils ont commencé à louer Dieu. Et ça, c'est puissant. Ils ont commencé à louer Dieu alors qu'il n'y a rien de changé dans leurs circonstances. Les Moabites et les Ammonites sont toujours là à la porte, prêts à les tuer. Et la Bible nous dit que le moment où ils ont commencé à louer l'Éternel, Dieu a envoyé une embuscade dans le camp de l'ennemi. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour qui? La victoire est pour qui? Louer Dieu en toutes circonstances. Tu t'imagines, louer Dieu quand tout va bien, c'est facile. N'importe qui est capable de faire ça. Mais quand tu es dans le fumier jusqu'au nez, puis il faut que tu te lèves sur la pointe des pieds pour dire « Je t'aime quand même, Seigneur », tu commences à te démarquer des autres. Et là, les gens, ils voient que, hey, ton affaire, ça doit être du sérieux, parce que moi, dans l'épreuve dans laquelle tu te trouves, je ne serais pas en train de louer Dieu. Et ton Dieu, il doit être puissant pour que tu loues avant même que les circonstances soient changées. Il y a une puissance dans la louange. Et Josaphat et les chantres, quand ils sont mis à louer Dieu, une embuscade, 3 jours et demi pour ramasser le butin. Wow! Ça, c'est notre Dieu. Dieu aime nous mettre face à des circonstances où on ne peut plus dépendre de nous, de nos forces, de nos capacités, de nos moyens, mais dépendre uniquement de lui. On est sans force, on ne sait plus quoi faire, mais nos yeux sont fixés sur toi, Éternel, notre Dieu, car il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu de tous les dieux, et d'un seul mot de ta part, les circonstances peuvent changer. Et peu importe l'adversité, Éternel, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur. Et quand je loue, l'enfer tremble de peur. Alléluia! La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est un message qui peut changer ta vie. Il y a toujours un « mais Dieu » malgré tes épreuves, malgré tes difficultés, malgré les situations dans lesquelles tu te trouves. Même la mort a été vaincue, qui est le dernier ennemi. Même la mort, quelqu'un qui meurt, ce n'est pas la défaite, c'est la victoire. Promu dans la gloire. C'est toute notre destination, de toute façon. Attendez une minute dans mes notes, ça ne va rien. Non, c'est marqué, la foule resta silencieuse, percutée par la profondeur de tes paroles. Il y a des temps pour réfléchir, comme disait Maurice Ray. Il y a des temps pour se dire, oui, c'est vrai, Seigneur. Ben, même si on vit de plus en plus vieux aujourd'hui, un jour, on meurt. Même tous ceux que Jésus a guéris sont tous morts un jour. La réalité, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et moi, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra m'empêcher. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il est la vie éternelle. Et parce qu'à travers la repentance, j'ai mis ma foi dans l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, je ne mourrai jamais. Jean 11, 25, c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est ce qu'il nous dit dans la parole. Et moi, je le crois. Je le crois. Je vais passer de la mort à la vie. Quand? C'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Je suis pas encore assez sanctifié pour dire « Ah, ce soir, viens me chercher, Seigneur, j'ai tellement hâte d'être avec toi. » C'est vrai qu'on a une bonne vie sur terre quand même, hein, là. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est pas quelque chose que je demande au Seigneur, viens me chercher. Mais je ne demande pas non plus d'ajouter des années à ma vie, mais de la vie à mes années. Ah non, ça, c'était trop vite pour les Suisses. Attendez. Non, il faut... Non, mais dans la façon... Pas pour votre entendement, c'est pour la traduction. «
Non, mais je vous ai pas insulté, vous avez rien à me pardonner. Non, mais Tom Neige. Ce que je voulais dire, je ne demande pas à Dieu d'ajouter des années à ma vie, mais de la vie à mes années. Je veux vivre avec passion. Je veux vivre pleinement chaque jour. Et quand arrivent des épreuves, des difficultés, je loue l'Éternel. Parce qu'il y a une puissance dans la louange. Et je sais que peu importe les situations, il y a un « mais Dieu » pour ma vie. Alléluia. Est-ce que je vous en partage un autre de plus ou si on arrête là? Hein, on peut un autre? Ah oui, moi aussi, ça m'excitait hein, parce que je disais « waouh, c'est extraordinaire ce qu'il y a dans la parole de Dieu ». Et un de mes préférés, je suis arrivé dans le livre des Lamentations. Ouais, une petite séance de pite aiguë de temps en temps, ça fait du bien, hein? Vous connaissez ça, de la pite aiguë? Non, pour ceux qui m'entendent. La pite aiguë, c'est de l'apitoiement excessif sur soi-même. Pauvre petit moi, ça va pas, eux, ils sont bénis, moi pas. Et on se regarde au lieu de regarder à Dieu. On appelle ça de la pite aiguë chez nous. Et le livre des Lamentations de Jérémie, parce que Dieu connaît notre nature humaine. Et il sait qu'une petite séance de lamentation, de temps en temps, ça fait du bien de quand même évacuer puis dire tout ce qui ne va pas. Puis l'épreuve, les difficultés dans lesquelles nous sommes, mais pas pour y rester. Juste pour effleurer le fait de l'avoir sorti. Sauf que, quand tu as compris que la foi vient de ce que tu entends, tu dis, je vais faire attention à ce que je dis. Parce que ce que je vais dire va me procurer de la foi dans ce que j'ai dit. Donc, je suis peut-être mieux de confesser les promesses de Dieu sans faire semblant que ça ne va pas. Je dis les choses réelles, mais je ne reste pas dans cet état. Écoutez bien, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, c'est un prophète qui parle. Un prophète de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit au verset 18. « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Pouvez-vous vous imaginer dans quelle profondeur de détresse, de difficulté, de malheur se trouve Jérémie, prophète de Dieu, pour en arriver à dire « Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » En arriver au point de même plus croire que Dieu puisse intervenir. Et là, il continue, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Quand je me rappelle toutes les choses qui ne vont pas dans ma vie, toutes les difficultés auxquelles j'ai à faire face, et je ne me moque pas des épreuves et des difficultés. Il y a des situations qui sont extrêmement difficiles, humainement, par rapport à des relations humaines, par rapport à des êtres chers. Je ne, d'aucune façon, me moque des souffrances, des épreuves et des difficultés dans lesquelles on peut se retrouver. Mais sauf que quand c'est à cela qu'on pense, quand c'est de ces choses-là qu'on parle, lorsque notre âme se souvient de cela, elle est abattue au-dedans de nous. Et là, Jérémie, il comprend quelque chose et il dit, « Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Éternel Dieu. » Regardez-moi un instant. Vous avez un homme qui, en quelques versets, passe d'une profonde dépression où il a perdu toute espérance en l'Éternel, qui n'a plus aucune force, à un Dieu qui est en train de louer, à un homme qui est en train de louer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les situations sont changées? Les circonstances sont changées? Non. C'est que Jérémie vient de comprendre quelque chose. Ce à quoi il pense a un effet direct sur l'état de son âme. Et là, il a réalisé, c'est lui qui avait le zapper. Vous connaissez ça, un zapper? Vous savez, mesdames, cet appareil qui sert à changer les chaînes de télévision, mais que vous ne parvenez jamais à voir parce que c'est votre mari qui l'a toujours. Vous comprenez, c'est quoi le zapper? Une télécommande. Une télécommande. Et là, Jérémie vient de réaliser que c'est lui qui a la télécommande. Enfer FM ou ciel FM? Enfer FM, quand je pense à mon malheur, à ma détresse, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Ciel FM. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour moi chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel Dieu! Hey, il y a 3 Suisses qui ont levé la main et qui ont crié. Alléluia! Je vous taquine parce que je vous aime. Hein? Amen. Ça fait 20 ans que je suis parmi vous, donc on commence à se connaître un peu, n'est-ce pas? Amen. Mais l'important, c'est ça, c'est de se rappeler ces choses. C'est toi qui détiens la télécommande. Pourquoi rester sur Enfer FM qui va t'amener à la dépression, au découragement, quand tu as accès à Ciel FM? Allez, dans mes notes, c'était marqué. Toute la foule dit Alléluia. Exactement, Laurent. T'as lu mes notes avant ou quoi, non? C'est toi qui décides ce à quoi tu veux penser. C'est quoi les choses que tu veux repasser dans ton cœur? Moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais attends, moi, j'en ai marre d'Enfer FM. Pourquoi? Tu sais, quand t'es dans ton auto, puis tu cherches tu voyages, comme nous, on voyage beaucoup, et de temps en temps, bon, pour faire le changement de la louange puis des enseignements, surtout qu'aujourd'hui, t'as même plus de lecteur CD dans les voitures, je scanne les postes de radio. Il y a des postes de radio, dès les premiers mots, je m'envoie tout de suite au suivant, je sais ce qu'ils vont dire, ça ne m'intéresse pas, etc. Mais c'est la même chose dans ta vie. Pourquoi tu restes sur des postes d'Enfer FM? Tu sais à quoi ça va te mener, au découragement, à la dépression. Ton âme va être abattue. Va-t'en sur Ciel FM. Alléluia! Sur Ciel FM, ça va te donner de l'espérance. Ça va te redonner la foi en ce Dieu qui a un « mais Dieu » pour ta vie. Peu importe la difficulté dans laquelle tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y a un « mais Dieu » pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Mais tu ne capteras pas « mais Dieu » sur Enfer FM. Tu vas le capter sur Ciel FM. Et l'importance de se nourrir de la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on apprend à connaître qui est Dieu. Comme Josaphat connaissait son Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a réuni le peuple dans la maison de Dieu, ils ont commencé à rappeler à Dieu qui il était, parce qu'eux avaient besoin de l'entendre. Ils avaient besoin d'entendre qui était le Dieu en qui ils avaient mis leur confiance. Est-ce que ton Dieu est plus grand que tes difficultés? Est-ce que ton Dieu est plus grand que peu importe les épreuves dans lesquelles tu peux te trouver aujourd'hui? Si tu réponds oui à ça, commence à le louer pour sa grandeur. Il y a un « mais Dieu » pour ta vie. Essaye pas de comprendre ça va être quoi, comment Dieu va t'en sortir. Il y a juste une chose que tu sais, c'est qu'il va t'en sortir. Il va t'en sortir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a déclaré qu'il ferait, il va le faire. Ses promesses sont « oui » et « amen » prononcées par nous. C'est nous qui, en lisant les promesses de Dieu pour notre vie, nous, en apprenant à connaître notre Dieu, on peut déclarer en face de l'adversaire, « peu importe les œuvres que tu veux contre moi, je déclare à partir de maintenant que toute arme forgée contre moi sera sans effet, que toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne parce que c'est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel. C'est mon héritage, c'est la promesse que Dieu m'a faite, c'est la parole que Dieu m'a donné pour ma vie. Et je ne laisserai pas quelqu'un qui a été vaincu le 2000 ans continuer à faire une œuvre de destruction dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mes enfants, etc. Je me positionne parce que peu importe les épreuves auxquelles j'aurai à faire face, je sais qu'il y a « mais Dieu » pour moi. Il y a un « mais Dieu ». Et un avant-dernier, un des bons aussi. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph qui a eu des visions de la part de Dieu, des rêves qui lui disaient qu'un jour ses frères se prosterneraient devant lui. Un jour qu'il serait élevé en tellement haute position que les royaumes se prosterneraient devant lui. Mais Dieu n'a pas dit à travers les rêves qu'il serait jeté dans une citerne, qu'il serait vendu comme esclave en Égypte, qu'il serait au service d'un homme dont la femme l'accuserait faussement et qu'il serait mis en prison et que ceux qui promettaient de le sortir de prison l'oublieraient. Mais Dieu, il dit à travers toutes ces circonstances, « Moi, je ne t'oublierai pas. » Moi, j'ai un plan pour ta vie. Moi, j'ai des projets que j'ai formés sur ta vie. Et la prison, la citerne et les fausses accusations sont des étapes pour te préparer à l'élection que j'ai sur ta vie. Si tu restes sur Ciel FM, si tu restes fidèle à mes promesses, si tu ne laisses pas l'amertume dans ton cœur, si malgré les circonstances, tu parviens même à bénir tes ennemis, et je vais t'élever et je te mettrai en position. Et quand Joseph, qui est resté fidèle par son attitude envers son Dieu, a été élevé à la position de premier ministre d'Égypte, il y avait une seule autorité au-dessus de lui, c'était Pharaon lui-même. Imaginez-vous, cet esclave était devenu la deuxième personne en autorité dans tout le pays d'Égypte, parce que Dieu avait besoin de lui pour sauver son peuple de la famine. Et quand vous connaissez l'histoire, ses frères sont venus pour acheter du blé parce qu'il y avait la famine en Canaan, etc. Et il y a eu toute la suite où Joseph s'est révélé à ses frères. Et quand ses frères ont su que le premier ministre qu'ils avaient devant eux, c'était leur frère Joseph qu'ils avaient voulu tuer, ils ont dit, ça y est, il va nous... Parce qu'il y a le pouvoir de vie ou de mort sur nous. Écoutez la réponse de Joseph dans Genèse 50 au verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous vouliez me faire du mal, vous avez voulu me détruire, vous avez voulu me tuer, vous m'avez vendu comme esclave, mais Dieu, tout le mal que vous aviez planifié contre moi, mon Dieu, l'a changé en bien pour que je devienne un instrument pour accomplir aujourd'hui ce que Dieu voulait qu'il soit accompli pour sauver un peuple. Quelle puissance! Quelle puissance! Le verset avant, j'ai oublié de le citer, mais le verset avant, quand ses frères ont eu peur qu'il tue, il dit, suis-je à la place de Dieu pour juger, pour condamner? Non, vous aviez planifié le mal contre moi. Mais Dieu! L'a changé en bien. Alléluia! Et c'est le même Dieu qui s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ qui est là aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma sœur, je ne sais pas, moi, les situations dans lesquelles tu te trouves, mais Dieu les connaît. Mais Dieu sait exactement tout de toi. Il connaît même le nombre des cheveux sur ta tête. C'est comment personnel, comment Dieu te connaît intimement. Et ce Dieu est là ce soir pour te dire, j'ai un « mais Dieu » pour toi. Change de station de radio. Quitte Enfer FM. Va sur Ciel FM. Tu vas voir que ce matin, mes bontés se sont renouvelées pour toi. Mes compassions ne sont pas à leur terme. C'est chaque matin, elles se renouvellent pour toi. Pour toi qui crois, pour toi qui t'appropries les promesses de Dieu, pour toi qui dis oui, amen à ce que Dieu dit dans sa parole. C'est à toi que s'adresse cette promesse de la part de Dieu. Et un petit dernier pour la route. Mon association s'appelle, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu pour quitter carrière et profession et aller comme évangéliste itinérant annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ partout où Dieu me conduirait, je cherchais un nom pour mon association et dans la prière, j'ai reçu un verset qui m'interpellait depuis ma conversion. C'est Romains 8, 37. Romains 8, 37 dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. » Mais dans toutes ces choses, c'est quoi ces choses-là? Bien, vous lirez les versets qui précèdent. Les tribulations, la maladie, les calamités, les épreuves, les difficultés. Ajoutez-en, mettez-en, il y a encore de la place. Tout ce qui peut t'arriver. Jésus dit, mais dans toutes ces choses, Paul qui dit ça, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui t'a aimé. Oui, tu ne seras pas épargné des épreuves et des difficultés. Jésus lui-même s'est rendu obéissant par les souffrances qu'il a connues. Nous, on voudrait une vie baba cool, prospérité, pas d'épreuves, pas de difficultés. c'est utopique. Si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, s'il est notre maître et nous sommes ses disciples, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le chemin que le maître a parcouru, le véritable disciple devra parcourir le même chemin. Je n'aurai pas à donner ma vie pour sauver l'humanité comme Christ l'a fait, mais j'ai à mourir à moi-même pour me sauver moi-même de moi-même. Mais j'ai à suivre le chemin que Jésus est. Jésus est un homme de douleur, un homme habitué à la souffrance, un homme qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ça, c'est le chemin du disciple. Et ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu, seront persécutés. Ce n'est pas des mots qu'on aime entendre. Hein? Je n'ai jamais vu cette promesse-là sur un frigo dans une maison. « Seigneur, je te prie d'accomplir tes promesses. Tu as promis que ceux qui voudraient vivre pieusement pour toi seraient persécutés. Seigneur, persécute-moi! » Je n'ai jamais entendu ça dans une maison. Je n'ai jamais vu ce verset sur un frigo. J'ai vu beaucoup de versets. « Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Et Dieu veut te bénir. Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il dit, pour l'instant, tu es étranger sur cette terre. Attache-toi pas aux choses qui font la guerre à l'âme. C'est pas ici ta résidence. Ta résidence, elle est céleste. Tu es de passage ici-bas. Tu fais fonction d'ambassadeur. C'est pas ton pays, la terre. De toute façon, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, c'est plus ton royaume, la terre. Toi, tu es d'un autre royaume aujourd'hui. Et parce que tu fais ces choix, parce que tu as le désir dans ton cœur d'être saint comme ton Dieu est saint, tu parlais de la sainteté aujourd'hui, un message qui se perd. On ne parle plus de la croix, mon frère, comme tu l'as mentionné. Tu as vu au Liban, hein? Ils veulent la croix, ils veulent comprendre le sacrifice de la croix. Nous, c'est devenu quelque chose de trop banal. Pas nous, mais d'autres qu'on connaît, qui ont banalisé les souffrances et l'œuvre de le prix qui a été payé pour notre achat. Et nous, on voudrait une petite vie baba cool, que prospère dans toutes les choses, etc., sans payer aucun prix. Non, il y a un prix à payer. Pas pour ton salut. Tu as un prix à payer parce que tu as reçu le salut. Tu as reçu le salut gratuit. Et maintenant, parce que tu as reçu ce salut, tu veux marcher dans les pas de ton maître. Tu veux être un disciple accompli. Alors, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des situations devant lesquelles, un peu comme Moïse devant la mer Rouge, avec la mer devant toi, avec Pharaon qui te poursuit derrière, les montagnes à gauche et à droite, et tu seras comme Josaphat dans une situation où tu diras, mais je ne sais plus quoi faire. Je me sens sans force, je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus de solution. Et là, Dieu dit, enfin, enfin, parce que tant qu'on a des solutions, c'est quelle solution qu'on applique sur nos situations? Nos solutions! Mais quand tu n'as plus de solution, là, tu es obligé de te rappeler qu'il y a un Dieu qui est là, qui, lui, veut intervenir dans ta vie, mais il attend que tu l'invoques, il attend que tu te tournes vers lui. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Tu as vaincu même la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu toutes les circonstances. Il n'y a pas une situation qui peut survenir dans ma vie pour laquelle tu n'as pas déjà accompli la victoire. Et c'est par la foi que je dois me l'approprier. Alors, en terminant ce soir, pendant que peut-être vous revenez au clavier, pas juste le clavier, les deux, Carla et aussi Myriam, parce que j'aimerais qu'on puisse terminer avec un chant de victoire. Si vous êtes d'accord, hein, je ne voudrais surtout pas imposer quoi que ce soit. Mais il y a un « mais Dieu ». Ne serait-ce que ces deux mots que vous puissiez retenir du message de ce soir pour vous encourager dans des épreuves peut-être dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui ou des épreuves dans lesquelles vous vous trouverez demain. Parce que c'est la réalité de nos vies. Qui ici manque d'épreuves? Qui aimerait avoir plus d'épreuves dans sa vie? N'est-ce pas notre réalité de faire face à des épreuves? D'avoir à surmonter des épreuves, des difficultés, qu'elles soient de quelque ordre que ce soit? Et Dieu voulait t'encourager ce soir en te rappelant, il est avec toi. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un homme de douleur, c'est un homme de souffrance. Il sait ce que tu souffres. Il a souffert. Il sait c'est quoi d'être rejeté, trahi, abandonné, délaissé par tous, faussement accusé, calomnié, frappé, meurtri, cloué sur le bois et tué. Il sait c'est quoi. Et pourquoi il a subi ça? Pour que quand toi, tu serais dans des difficultés, dans des épreuves, tu puisses regarder à lui et dire, lui, il me comprend. Lui, il sait ce que je traverse. Lui, il sait c'est quoi d'avoir des difficultés et des épreuves. Il sait c'est quoi de souffrir comme je souffre. Il compatit avec ma souffrance, mais il ne fait pas juste compatir. Il a la puissance pour transformer ma souffrance en quelque chose de glorieux. Amen. Victoire, c'est bien dit. Transformer en victoire, parce que c'est un Dieu de victoire. Alléluia. Donc, si ce soir, tu es dans une situation où tu dis, j'ai besoin d'un « mais » Dieu dans ma vie. Lève-toi à ta place. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est dans des difficultés, dans des épreuves, c'est difficile. C'est pour ça qu'ils appellent ça une épreuve. Mais rappelez-vous qu'une épreuve, c'est juste un test pour nous donner une promotion. La parole de Dieu nous dit que l'or est éprouvé par le feu pour la rendre pure, mais notre foi, elle est beaucoup plus précieuse que l'or pur. Et que Dieu éprouve notre foi. À la fin de l'année scolaire, chaque étudiant doit passer un examen. Le but de l'examen, ce n'est pas de le faire échouer. Le but de l'examen, c'est de valider à quel niveau l'étudiant a assimilé la matière qui lui a été enseignée. Et s'il a bien assimilé la matière qui lui a été enseignée, on le fait graduer à l'échelon au-dessus. C'est la même chose à l'école de la foi. Sois encouragé, mon frère, ma soeur. L'épreuve que tu traverses, quelqu'un d'autre l'a traversée avant toi. Son nom est Jésus-Christ. Il est le grand vainqueur. Et il est avec toi dans l'épreuve. Il est avec toi dans ta situation. Et il est là pour t'aider, pour te soutenir, pour t'encourager et te rappeler ce soir que celui qui aura le dernier mot, c'est lui. C'est lui qui aura le dernier mot. Et comme dernier mot, j'aimerais juste citer Job. On ne peut pas parler d'épreuve sans parler de Job. Et au chapitre 19, au verset 25, alors que Job, il y a 42 chapitres, hein, c'est dans la moitié de l'histoire, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu toutes ses possessions matérielles, son bétail, ses maisons. Et pour l'encourager, il y a sa femme qui dit « Maudit Dieu, puis crève ». Parce que continuer à faire confiance à Dieu dans des situations comme toi, tu te trouves, il y a de quoi qui ne va pas avec toi, Job. Moi, ça fait longtemps que je l'ai abandonné, ce Dieu-là, parce que si Dieu existait, il n'aurait pas permis cela. Et le verset 25 de Job 19, je paraphrase. Job dira, je ne comprends pas pourquoi je suis dans les situations dans lesquelles je suis. Mais il y a une chose que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. En d'autres mots, je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis les situations dans lesquelles je me trouve. Moi qui étais juste, dira Job, j'étais le plus juste sur terre. Et ce n'est pas parce que tu es juste que tu es épargné des épreuves. Mais Job dira une chose. Je ne comprends pas pourquoi je vis ces situations. Mais celui qui va avoir le dernier mot, celui qui va se lever en dernier dans cette situation, c'est mon Rédempteur, parce qu'il est vivant. Est-ce que tu peux dire ça là ce soir? Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je vis telle situation. Mais comme Job, je veux déclarer ce soir que tu es vivant et celui qui aura le dernier mot dans ma situation, c'est toi, parce que tu as un « mais » Dieu pour ma vie. Alléluia. Seigneur, on te bénit, on te rend grâce. On veut terminer avec un chant de victoire parce que tu es le Dieu de victoire. Tu vois tous ces bien-aimés qui se sont levés parce qu'ils ont besoin d'un mais Dieu dans leur vie. Eh bien, Seigneur, envoie ta parole et guéris-les. Dis un mot et ils seront guéris, sauvés, délivrés de leur situation. Seigneur, tu vois ton peuple qui se lève et qui s'attend à toi et qui, pour te prouver la confiance qu'ils ont en toi, va commencer à louer ton nom et tu vas envoyer une embuscade dans le camp de l'ennemi comme tu l'as fait pour Josaphat. C'est ce que nous déclarons par la foi ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.